Bonjour à tous, donc, je vais vous présenter mon travail qui a porté sur la fasciathérapie méthode d'Adibois et plus particulièrement sur le niveau de preuve de cette pratique de soins non conventionnels. Concernant les pratiques de soins non conventionnels, différents organismes nationaux et internationaux signalent leur augmentation en nombre et en fréquentation. 40% des Français y auraient recours selon le dernier rapport de la MIVILUD, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Cette dernière signale également que ces pratiques peuvent parfois être risquées pour la santé physique et mentale des patients. On parle alors de dérives sectaires. La profession de kinésithérapeute est concernée par ces pratiques, d'une part par sa recherche clinique en cours de développement, et d'autre part par les nombreuses offres de formation continue qui sont proposées aux professionnels. Pourquoi s'intéresser particulièrement à la fasciathérapie? D'abord, de plus en plus de kinésithérapeutes la pratiquent. On en compte environ 4000 en France. Enfin, nous avons relevé dans la littérature, a priori, une seule étude expérimentale qui portait sur la fasciathérapie, et il nous a été impossible de mettre en place un protocole expérimental rigoureux permettant de tester un de ses principes fondateurs. Finalement, qu'est-ce que c'est la fasciathérapie? Nous allons visionner une vidéo de d'Adimbois, son fondateur, qui nous la présente. Cette vidéo a été diffusée en 2009 sur TV8 Clermont-Ferrand.
Alors la fasciathérapie est une thérapie manuelle qui est le plus souvent pratiquée par les kinésithérapeutes. Quand on voit un fasciathérapeute travailler, on voit sa main qui glisse pratiquement à l'intérieur du corps. Il écoute le mouvement qui est à l'intérieur du corps. Alors ça fait à travers un geste manuel doux, profond.
Et encore un point d'appui, et j'attends que le corps me dise où je veux aller. Et là, hop, il veut aller là, donc je le suis.
On retient donc que c'est une thérapie manuelle qui agirait sur le mouvement intérieur du corps. Nous sommes alors posés deux questions. Quelle est la validité scientifique de la fasciathérapie et quelle est son efficacité thérapeutique? Pour répondre à ces questions, nous avons d'abord élaboré une grille de lecture que nous pouvons apercevoir ici et qui nous a permis d'analyser des documents sélectionnés dans un second temps. Pour l'élaborer, nous nous sommes inspirés de grilles permettant d'analyser des études qualitatives comme quantitatives. Nous n'aurons pas le temps de la détailler plus, mais vous pouvez la retrouver dans mon mémoire. Nous avons donc ensuite sélectionné des documents en consultant des bases de données classiques comme la MedLive, mais aussi en consultant des sites internet spécifiques à la fasciathérapie qui rassemblent tous les travaux parus sur le sujet. Tout document portant sur la fasciathérapie, en français ou en anglais, d'une période illimitée jusqu'en juin 2011, était inclus. Notre principal critère de non-inclusion était que les documents ne soient pas accessibles par le biais d'internet, du prêt entre bibliothèques ou sur demande auprès de l'école supérieure de fasciathérapie, école située à côté de Paris. Le remplissage des grilles de lecture nous a permis d'aboutir à une analyse statistique descriptive du corpus et nous avons ensuite relu l'ensemble des documents pour en faire une lecture critique. Nous allons maintenant présenter les principaux résultats ainsi que les analyser. Nous avons donc retenu 41 documents. Nous avons relevé que ces documents faisaient souvent référence à des concepts qui désignent des entités non définies par les sciences. On voit ici les termes de mouvement interne, de psychotonus ou encore de toucher symptomatique. Ces mots peuvent sembler être issus du lexique scientifique alors qu'en fait ce n'est pas le cas. La fasciathérapie se réfère beaucoup à la notion de mouvement interne. Par exemple, Adibois nous dit en 2008 dans une revue intitulée « Réciprocité » que la mobilité interne dont il est ici question, en fasciathérapie, est sans rapport avec les mouvements physiologiques bien connus que sont la respiration thoracique, les battements cardiaques ou encore le péristaltisme intestinal. Pourtant, à notre connaissance, il n'existe aucune étude qui ne met en évidence cette énergie, ce fluide énergétique qui circulerait dans le corps, décrit par les fasciathérapeutes, et qui serait différent des mécanismes cités ici. Nous voyons sur cette diapositive qu'un seul document du corpus est paru dans une revue scientifique. En plus, environ un quart des documents ne sont parus nulle part et sont accessibles seulement sur demande auprès de l'école de fasciathérapie. Nous avons aussi relevé que les auteurs des documents faisaient souvent référence au titre de professeur de Adibois, titre qu'il a écrit en Espagne en sciences de l'éducation. Ceci peut suggérer un moyen rhétorique nommé argument d'autorité et qui consiste à s'appuyer sur l'autorité d'une personne, plus particulièrement si elle a de nombreux diplômes, pour accorder plus de valeur à ses propos. Nous voyons sur ce graphique que les auteurs des documents du corpus s'appuient peu sur des études issues de revues scientifiques pour élaborer leurs propres études. On s'est alors demandé si la conception des fascias donnée par les fasciathérapeutes et sur laquelle se base toute leur pratique correspondait à celle qui est plus communément admise. En fait, Danny Bois, le fondateur, nous dit lui-même que la fasciathérapie étend l'interprétation de l'approche classique des fascias à toutes les formations conjonctives. Ainsi, une nouvelle classification est créée de manière arbitraire et on ne peut pas dire qu'il y a une concordance précise entre la conception des fascias selon les fasciathérapeutes et celle qui est plus communément admise en histologie. Nous voyons ici que 40 documents sur 41 ne sont affectés d'aucun niveau de preuve. Une grande partie des études du corpus sont des études de cas d'un ou plusieurs patients. Cette méthodologie qualitative soulève différents problèmes. D'abord, ce n'est pas parce qu'un événement, comme la guérison ou le mieux-être, apparaît après un autre, comme la prise en charge en fasciathérapie, que le premier, la prise en charge en fasciathérapie, est la cause du second, de la guérison ou de mieux-être. C'est ce qu'on appelle la confusion entre corrélation et causalité. Ensuite, les outils permettant de mettre en évidence cette guérison ou ce mieux-être doivent être fiables et prévus a priori. Il ne s'agit pas seulement de demander l'avis du patient. Finalement, notre étude nous a permis de conclure quant à la validité scientifique de la fasciathérapie. Il n'y a à l'heure actuelle aucune preuve en sa faveur. Pourtant, de nombreux praticiens et patients croient en cette pratique. Comment peut-on expliquer le grand écart qu'il existe entre le niveau de preuve de la fasciathérapie, les connaissances à son sujet et les croyances à son égard reflétées par les témoignages exprimant son efficacité? La fasciathérapie peut paraître efficace alors que ce sont d'autres facteurs qui entrent en jeu dans l'éventuelle amélioration des symptômes, comme l'évolution naturelle de la maladie ou encore les effets contextuels et placebo. Ces effets sont dépendants de différents éléments assez clairement identifiés de nos jours, comme les conditions environnementales du traitement, le rituel thérapeutique associé à sa délivrance, ou encore et surtout la relation entre le praticien et son patient. Des mécanismes psychologiques permettent aussi aux gens de persister dans leurs croyances. C'est le cas du besoin de croire, de la suggestion du praticien, de la confusion entre corrélation et causalité, ou encore du processus d'escalade d'engagement. Le kinésithérapeute se doit de prendre en charge ces différents facteurs et mécanismes qui conditionnent la réussite d'une prise en charge. Nous avons donc dit qu'il n'y avait aucune preuve en faveur de la fasciathérapie, mais nous nous intéressions également à son efficacité thérapeutique. La littérature que nous avons questionnée nous fait conclure qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il y a une efficacité propre de la fasciathérapie. Selon le code de déontologie de notre profession, le kinésithérapeute se doit d'appliquer des soins basés sur les données actuelles de la science. Il nous semble donc important et légitime qu'il sache exercer son esprit critique vis-à-vis des pratiques de soins non conventionnels, des offres de formation continue qui lui sont proposées, et de la littérature scientifique dans son ensemble. Il faut savoir remonter à la source et se déjouer de ses propres illusions perceptives, le bénéfice étant bien sûr à l'intention du patient qui se verra attribuer les traitements du meilleur niveau de preuve possible. Merci de votre attention.